Regard pluriel pour des enfants singuliers. Olivier Revol, pédopsychiatre, et Laurence Bossy, enseignante.
Bien, merci. Donc moi, je suis pédopsychiatre. Je dirige un service de neuropsychiatrie de l'enfant ici. Je suis dans ce service depuis 30 ans à Neuro. Et depuis 30 ans, on s'intéresse aux enfants différents et aux enfants à haut potentiel en particulier. Alors, on va vous présenter un truc à deux voix. C'est plus légitime de parler à des enseignants quand on est avec un enseignant ou une enseignante. Et vous allez voir qu'on a un discours qui est vraiment, vraiment en phase. C'est-à-dire que tout seul, on va plus vite, chacun dans notre coin, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et c'est des enfants pour lesquels on a besoin d'aller beaucoup plus loin. On va vous présenter ensemble comment on peut regarder ces enfants différemment. Le magnifique titre, c'est Laurence qui l'a trouvé, « Regard pluriel pour des enfants singuliers ». Vous voyez que sur ma diapo initiale, j'ai pris bien sûr l'albatros. Vous connaissez tous la métaphore de Baudelaire qui dit qu'il est empêtré quand il est sur le pont du bateau. Tout le monde se moque de lui et puis dès qu'il vole, il est magnifique. Mais je trouve que la métaphore, elle va plus loin. Et vous verrez le sens que j'accorde aux métaphores pour suivre ces enfants à haut potentiel. Je les suis depuis tellement longtemps que maintenant, ils m'amènent leurs enfants. Donc, j'ai un certain recul par rapport à ce qui s'est passé. Et ce que je leur disais, tu verras, ça se passera mieux plus tard. Ils ne me croyaient pas. À l'époque, ils me le disent. Maintenant, je ne vous croyais pas, mais vous aviez raison. C'était très difficile au collège. Et c'est très difficile dans la classe de 5e. Je cherchais avec l'albatros une autre métaphore. Vous savez, on dit que ce qu'on fait pour les enfants à haut potentiel, ça profite à tous les enfants à besoins particuliers, à besoins éducatifs particuliers. La marée fait monter tous les bateaux. Eh bien, l'albatros, à partir du moment où on a compris comment se faisait le portage et comment un géant dans le ciel pouvait être porté comme ça, ça va servir aussi à ce que tous les enfants prennent les courants ascendants pour pouvoir arriver à donner le maximum de leurs compétences. Et puis l'autre, j'ai rajouté hier soir à l'arrache, tu ne l'avais pas vu ça?
Non.
J'ai pris dans mon bureau, c'est un des premiers enfants au potentiel que j'ai vu, 5 ans. Et il n'y avait qu'un truc qu'il savait faire, il ne savait pas écrire, il n'y a qu'un truc qu'il savait faire, c'est dessiner. Donc je l'avais mis dans une boîte qui s'appelait La Petite Académie. Regardez ce qu'il m'a fait à 5 ans, c'est assez magnifique. Je pense qu'ils ont, il y a aussi une créativité à un moment donné qu'il faut savoir retrouver chez ces gamins-là.
Dans le secret des consultations.
Donc voilà, regard pluriel, je vais vous confier quelques secrets de psy. En fait, j'ai pris comme modèle un bouquin qu'on a écrit avec une enseignante aussi, qui s'appelle Doris Perraudin, « 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel ». C'est un bouquin qui est sans prétention, mais qui permet d'avoir les idées claires. Secret de psy. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le secret des consultations? Et encore hier, j'ai eu 2-3 cas dont je vous parlerai tout à l'heure, où on apprend des choses et ils nous apprennent, enfin tous les enfants nous apprennent énormément de choses, surtout les plus difficiles. Hein. Facile d'enseigner un élève facile, c'est facile d'élever un enfant facile, facile de soigner un enfant facile, il ne fait pas progresser. Ceux qui font bouger les lignes et qui nous apprennent, c'est tous ces enfants 10 déficients ou à haut potentiel qui nous poussent à modifier notre comportement et notre façon de fonctionner. Alors quelques messages clés. D'abord, il s'agit d'enfants différents, ça va être le thème de tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Ensuite, ils peuvent échouer à l'école. Alors, on n'a pas de chiffres, on se bat un peu pour les chiffres. Combien échouent, on ne sait pas bien. Je pense qu'on peut plus dire comme avant, il y en a un tiers qui n'arrivera pas au lycée. C'est un chiffre, un très très vieux chiffre, et on n'en est plus là. Mais il y en a au moins la moitié, à mon sens, qui sont en difficulté scolaire. Ça, c'est le troisième message clé à ne jamais, jamais oublier. C'est que le haut potentiel masque les autres troubles cognitifs et qu'on peut avoir aussi bien dans le premier ou le deuxième degré des enfants où on voit ni la dyslexie, ni le haut potentiel, ni le déficit d'attention parce que le haut potentiel a masqué ça. Et nous, on les voit arriver au bord de la crise de nerfs en fin de collège en général, et surtout en début de lycée, où des enfants qui avaient compensé, qui étaient même parfois brillants en primaire, n'y arrivent plus. Et avant de parler de problèmes psy, ce qui est malheureusement souvent le cas, eh bien, il suffit de les tester et on s'aperçoit qu'ils ont un QI extrêmement hétérogène. On parlera cet après-midi avec des points forts et des points faibles. Et quand je vous dis « il », je devrais dire « elle », parce que c'est le quatrième mot clé, « take home message », message à ramener à la maison, c'est que les filles, en général, et les filles à haut potentiel en particulier, internalisent leurs différences. Ça, c'est une mode occidentale, française surtout, où les filles s'identifient à ce qu'elles voient à l'image de leur mère, qui est obligée de s'adapter pour avoir plusieurs métiers dans la même journée. Et donc les filles 10, les filles anxieuses, les filles déprimées, les filles hyperactives, les filles précoces, pendant très longtemps, elles font genre, comme disent les ados, et elles ne le montrent pas. Mais à un moment donné, elles n'y arrivent plus, et c'est là qu'elles paniquent. Et c'est là qu'on peut avoir des scarifications, des troubles du comportement, l'anorexie mentale, la dépression et des TOC. Donc attention à nos élèves, filles, fillettes d'abord, et surtout adolescentes, qui à un moment donné sont en rupture. Et avant de parler de troubles psychologiques, intéressons-nous d'abord à leur équipement cognitif et regardons à quel point elles n'ont pas essayé de masquer tout ça et quelle est la douleur pour elles, encore une avant-hier qui m'a dit ça, de décevoir, de se décevoir, de décevoir ses profs et de décevoir ses parents. Notre mission à tous, si on a choisi nos métiers, ce n'est pas des métiers qu'on fait, hein, c'est des passions, hein, qu'on soit enseignant, psychologue, médecin, c'est ça. C'est parce qu'on a tous la même certitude, ce qu'un être humain est capable de produire, il faut qu'il arrive à le produire. Et si à un moment donné, il est en dessous, eh bien c'est là qu'on court le risque de rentrer dans des troubles psychopathologiques. Et pas l'inverse, comme très longtemps les psys ont voulu nous faire croire que c'était les problèmes psychopathologiques qui empêchaient d'apprendre. Non, souvent c'est aussi l'empêchement d'apprendre, des enfants qui sont entravés dans les apprentissages, qui peuvent déclencher des troubles psychopathologiques et qui reprennent le sourire dès qu'on leur a donné des outils. C'est magique. Hein. Et ils ressortent avec le sourire parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas déficients, ni psychotiques, ni fainéants, mais simplement entravés, empêchés d'apprendre.
Force et faiblesse.
Alors la majorité d'enfants vont bien, des enfants HP. Hein. Attention, parce qu'il y a eu aussi une mode où ils étaient tous malades. J'avais écrit pas mal d'articles en disant le haut potentiel, il ne faut pas en faire une maladie, à tous les sens du terme. Hein. Ce n'est pas une maladie et il ne faut pas qu'on s'en rende malade. On verra pour conclure que c'est une chance. Mais ils ont des forces et des faiblesses qu'il faut repérer le plus vite possible. Alors les forces, ils les ont. Elles fascinent les parents, elles fascinent les enseignants. Et vous imaginez comme la chute est encore plus dure quand cet enfant qui a fasciné tout le monde au départ commence à être en difficulté. Ils ont une précocité du développement, pas tous. Attention, hein, c'est des généralités, mais il y en a qui ne parlent pas plus tôt que les autres. Mais on sait que quand ils parlent, en général, ils ont la syntaxe. Et beaucoup de parents nous disent, non, surtout les filles, elle n'a pas parlé avant 2 ans, finalement, ou 1 an et demi, 2 ans, pas plus tôt que son frère. Mais alors quand elle a parlé parfaitement. Pareil pour la marche, figurez-vous. Ils ne passent pas par le quatre pattes. Et on pense après que ce manque d'acquisition des étapes va les gêner dans tous les apprentissages. Parce que pour eux, les apprentissages ont toujours été faciles à condition que je les maîtrise. Et ils attendaient de tout maîtriser. Alors, je vais vous montrer un petit bout de film. Je vais vous montrer d'abord ce qu'on repère chez ces gamins-là. Beaucoup de parents nous disent, maintenant que vous me le dites, par rapport à son frère et sa sœur, dès la naissance, il me regardait, il me fixait. Avec parfois des projections parentales complexes. Hein. Dans sa couveuse, elle me regardait, elle me scannait. J'avais l'impression qu'elle me reprochait des trucs. Imaginez que la maman a hésité à un moment donné à la garder, et elle s'est persuadée que sa gamine le sait. Et une mère qui me disait, mais je n'osais même pas la regarder, et en plus elle ressemblait à ma belle-mère, c'était une horreur. Hein. Donc ils ont la fixation du regard, ils ont le tonus. Tonus, c'est-à-dire qu'ils tiennent bien leur tête, tiennent bien leur dos, et donc du coup ils sont assis plutôt, ils tournent la tête, et donc ils sont curieux de tout. Ils pointent plus vite que les autres. Donc toutes ces acquisitions normales, le pointage c'est 9-10 mois, ils l'ont souvent avant, ils prouvent qu'ils sont dans le dialogue, dans la communication. Je vais vous montrer un petit truc que vous connaissez peut-être, si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, c'est magique. Pour qu'on comprenne à quel point ce qui se passe dans le premier semestre de vie est fondamental, c'est l'expérience du still face, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un truc de ouf, vous allez voir. Et je l'ai fait avec des patients, faites-le avec vos enfants, vous ne tiendrez pas longtemps, parce qu'en général, c'est nous qui abandonnons. Il va demander à une mère qui communique avec son bébé de 5 mois, d'arrêter de communiquer avec elle et d'être hypomimique. Et vous allez voir le dégât que ça peut faire. Là, tout se passe bien. Pointe déjà à 6 mois, enfant en avance, intéressé par la caméra, dans l'échange avec une maman qui surjoue comme on surjoue les toujours pour être bien avec son bébé, en phase. Le bébé est heureux. Et là, Ed Tronick demande, c'est à Boston, à la mère de sortir et de revenir avec un visage impassible, comme un déprimé. Et vous allez voir les dégâts. Et là, il ne comprend pas, elle ne comprend pas, c'est une fille. Elle va essayer de la réanimer. Elle fait tout ce qui marche d'habitude et qui lui fait plaisir, et ça ne marche pas. Ta. Et là, il y a un malaise qui s'installe. Vous allez voir comment elle va demander de l'aide à la caméra à un moment donné. Et 2 minutes, elle va s'effondrer. Là, elle cherche la caméra pour qu'on l'aide. Et là, elle va plonger dans la dépression. Et c'est la mère qui craque en général. Hein. Vous le faites avec vos enfants, vous ne tiendrez pas longtemps. Alors, juste, c'était un exemple pour montrer ce qui peut se passer dans la tête d'un bébé, de tous les bébés, hein, mais d'un bébé à haut potentiel qui, plutôt que les autres, perçoit l'empathie de l'environnement et qui peut s'attribuer la responsabilité de quand papa ou maman va mal. Donc, précocité du développement, on verra tout à l'heure, parce qu'on a fait des études ici, on a maintenant la certitude, on l'a validé nous-mêmes avec Anne Guignard-Perret, que le sommeil paradoxal est augmenté, sommeil du rêve, sommeil de la créativité. On le soupçonnait, maintenant on a la preuve. Et puis que la transmission à l'intérieur de l'hémisphère, de chaque hémisphère cérébral, mais entre les deux hémisphères cérébraux, ce sont les travaux qu'on fait avec Fanny Nussbaum et Dominique Sapin-Marigné, eh bien, va plus vite. Maintenant, on le sait. Donc c'est pour ça qu'il y a ces réponses fulgurantes, mais aussi pas toujours adaptées et beaucoup plus intuitives que déductives, ce qui leur pose des problèmes quand ils arrivent au collège. Et ils ont des caractéristiques communes, ils sont curieux de tout, ils sont très créatifs, ils ont de l'humour. Ils sont très loyaux aussi, et vous verrez cette loyauté qui s'exprime à travers les... Moi, c'est des alliés pour moi. Dès que j'ai besoin de faire une conférence, je leur demande à eux des conseils, et ils répondent immédiatement. Donc vous voyez qu'on est loin d'un simplement un QI supérieur à 130, et on en reparlera dans la journée, mais le QI, c'est une chose, mais c'est qu'un élément. Et encore, il y a des enfants qui, même avec un QI très chargé, forcé, parce que les parents les ont très stimulés à 130, je ne les considère pas comme haut potentiel. Le haut potentiel, c'est... un QI supérieur à 130, au moins dans une des fonctions, surtout verbales, mais c'est surtout toute la panoplie qui va avec l'empathie, l'intuition, l'hypersensibilité, qui vont nous amener à avoir des postures différentes. Je crois que tu as un petit mot à dire là-dessus, sur ces faiblesses.
Alors, c'était pour vous dire que les hauts potentiels arrivent dans la littérature. Et c'est un livre d'Emmanuel Pagano. Je me souviens bien de son impatience, de son avance. En cours, elle trépignait de curiosité. Elle voulait savoir, tout de suite. Elle voulait savoir vite, tant pis pour les autres. Les autres traînaient, alors elle était déjà ailleurs. Elle rentrait son visage dans ses bras, sur le bureau, et s'en allait très loin pour apprendre autrement. Donc voilà, c'était pour faire... Un petit lien, moi je suis enseignante dans des classes de lycée, j'interviens dans le service du docteur Revol depuis maintenant 6 ans. Au départ, sur le centre des apprentissages, je me suis rendu compte que voilà, le fait d'avoir un interlocuteur enseignant à un moment donné, quand les jeunes sont hospitalisés ou suivis en service hospitalier, ça permettait une collaboration bien meilleure avec les établissements dans lesquels les jeunes étaient. Voilà. Donc finalement, on travaille de plus en plus ensemble et avec bonheur, parce que je crois qu'il faut redonner du mouvement à certaines situations. Et si sur le plan médical, des bilans le permettent, je crois que sur le plan de la scolarité, il y a besoin aussi de collaborer avec tous les partenaires éducation nationale. Voilà.
Alors, et tu oublies de dire aussi que tu as participé, tu étais même l'instigatrice des aménagements pédagogiques qu'on propose aux enseignants et aux parents pour les enfants à haut potentiel, comme de la même façon qu'on le fait pour les 10, et que ça a un retentissement national, parce qu'il y a des gens qui t'appellent de partout, hein, de France, et parce qu'on a diffusé un peu partout. Donc vous pouvez vous les procurer si vous ne les avez pas. Aménagement pédagogique pour les enfants à haut potentiel. Vous avez fait un travail remarquable en partenariat avec notre équipe.
Quelques exemples.
Alors j'ai quelques exemples pour aussi vous montrer ça, comme c'est parfois difficile. Alors moi je m'occupe beaucoup de Suisse aussi, parce que la Suisse n'est pas loin, et les petits Suisses pensent que c'est mieux chez nous. Alors troisième primaire en Suisse, c'est CP, CE1, CE2, et regardez ça, une posture d'enseignant tout à fait adaptée. Dans un cinéma, 125 personnes entrent dans la salle de projection. Après leur entrée, il y a 153 personnes assises dans le cinéma. Combien il y avait de personnes dans la salle avant l'entrée des 125 personnes? Et le gamin, comme vous le voyez, il répond « je ne sais pas », alors que c'est un gamin à haut potentiel, très haut potentiel, qui savait faire les racines carrées quand il est rentré en CP. Donc, on lui demande des explications. Il a eu zéro, il a pris la correction. Et voilà une explication typique d'enfant à haut potentiel. Ben, on ne peut pas savoir. Parce qu'à part ceux qui sont assis, il y en avait combien debout? Et quand j'entre au cinéma à Port-en-Truy, c'est dans le Jura, hein, y a le projectionniste qui est des fois tout seul, alors il vend les billets, des fois il est avec la dame qui vend les billets, mais il est quand même là, même si on ne le voit pas. Comme il y a écrit 153, c'est sûrement le cinéma de Port-en-Truy, parce qu'à Audincourt, il n'y a plus de projectionniste. Vous voyez la pensée de l'enfant à haut potentiel, d'abord extrêmement rigoureuse, mais aussi avec une tendance à faire des liens. Et au bout du compte, eh bien, il ne peut pas répondre. Là, il manquait le projectionniste et sa femme, mais elle n'est pas toujours là non plus, donc on ne peut pas savoir. Hein. Et il y avait une belle collaboration entre l'enseignante et la maman. Et la maman a dit, il s'entend bien avec sa maîtresse, ça se passe bien. Elle m'a dit, j'en ai deux comme ça dans la classe. C'est le quota. Hein. Il y a un à deux élèves à haut potentiel dans chaque classe. Donc c'est un des conseils qu'on donne à un enfant à haut potentiel quand il est perdu. Cherche l'autre, cherche-le. Hein. Ou plutôt cherche-la, hein, parce qu'il y en a une qui ne sait pas faire marquer. Et tu vas t'en servir comme poisson pilote. Tu avais des brèves de parents aussi, je crois.
Oui, alors je trouvais que c'était intéressant. Donc effectivement, avec les conseils pour la scolarité qu'on a pu travailler avec les médecins du service 502, je me suis retrouvée avec pas mal de mails de parents. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir ces mails, alors qui arrivent parfois d'un peu loin, pour voir les difficultés sur le terrain. Mon fils a sauté la classe de CE1, la primaire s'est passée sans trop de problèmes, mais quand même avec quelques remarques sur son comportement plutôt agité, et on voit que c'est au moment des transitions que les difficultés apparaissent. L'entrée en sixième est plus compliquée, nombreuses punitions, avertissements, heures de retenue, insolence auprès de ses professeurs. On voit bien que dans ces transitions, une collaboration nécessaire entre l'école primaire qui peut mettre en place des choses, le jeune est connu, identifié, les enseignants se sont appropriés sa différence, et quand on change d'établissement, au moment de la sixième ou de la seconde, on retrouve ces problématiques encore plus fortes. Je dirais même en troisième, parce qu'il y a le choix de l'orientation qui vient majorer aussi les situations d'angoisse. Donc effectivement, faire attention et puis aller chercher du côté de l'école primaire pour voir ce qui a été mis en place, parce qu'on sait qu'il y a déjà une expérience d'accompagnement de ce jeune.
Très bien. Alors, tu en as un autre aussi ?
Un autre, alors plus grand et puis a posteriori. Mon fils a aujourd'hui 18 ans, a été diagnostiqué haut potentiel à ses 13 ans. Toutefois, on vous annonce qu'il est haut potentiel, mais on ne vous explique pas qu'il risque d'avoir des problèmes. On ne vous oriente pas vers les spécialistes ou associations pour vous aider. On vous laisse là avec votre fils qui se démotive de plus en plus de ses études, qui manque complètement de confiance en lui, qui se perd. Aujourd'hui, j'aimerais trouver de l'aide pour lui permettre d'avoir son baccalauréat, car seul, je n'arrive plus à le motiver, à l'aider, d'autant que je viens d'apprendre que je serai sans doute moi aussi haut potentiel. Donc on voit aussi qu'il y a des reconnaissances de parcours. Ou puis-je trouver quelqu'un qui puisse lui apporter un soutien scolaire, le coacher pour qu'il réussisse. Donc il s'est passé 5-6 ans. La maman a l'air d'avoir tenu, mais là, elle n'en peut plus. Et donc, c'était un mail intitulé « Au secours, besoin d'aide ». Hein, on sent qu'il y a de la souffrance. Mon fils, donc je lui demande un petit peu d'où il en était, est en baccalauréat professionnel, technicien modeleur, formation par défaut au lycée à Lyon. Il n'est pas motivé par sa formation, mais dit avoir un petit intérêt pour l'atelier et la construction composante de sa formation. Il a réussi son BEP, mais sans travailler. Cette année, il lâche prise. Donc on sent combien c'est compliqué d'accompagner ces jeunes et combien c'est important de réfléchir à ce parcours en fonction de leur haut potentiel, mais aussi par rapport à leur épanouissement. Là, on voit bien qu'il y a une orientation qui s'est faite par défaut et on a raté quelque chose. Donc voilà, c'est important d'être attentif à ces signes. Voilà. Et en bref, d'enfant, je voulais juste rajouter, on le verra tout à l'heure, un Valentin dont j'ai reçu le message il n'y a pas très longtemps. Il est en seconde et il se retrouve avoir l'impression d'être un tricheur parce qu'il ne fournit pas d'efforts pour obtenir les résultats qu'il obtient. Donc le ressenti, il est là dans cette plainte, dans cette souffrance.
Ouais, trois jolis cas que je ne connaissais pas parce qu'elle les a travaillés cette nuit, elle les a rajoutés ce matin à l'arrache. Le premier cas, il me fait penser à un truc qui est très simple. Hein, l'enfant qui était brillant en primaire et qui commence à plus y arriver en secondaire, là, on doit se poser la question de la coexistence d'un haut potentiel et de autre chose, et en particulier d'un trouble d'attention. Hein, tu as vu ce qu'elle racontait, qui bavarde, qui prend pas, c'est notre chute. Or, en primaire, quand vous avez un trouble d'attention et que vous êtes très intelligent, vous pouvez compenser parfaitement. En secondaire, quand vous avez un trouble d'attention, on vous demande beaucoup plus d'autonomie. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, bien sûr. Et c'est là que le trouble d'attention masqué en primaire commence à apparaître. Donc, il faut là encore vraiment se poser la question, sachant qu'il est en sixième, il est déjà en difficulté. En cinquième, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la classe où il va trouver le plus de conflits avec les autres qui ont déjà commencé leur puberté, alors que cela, surtout avec un an d'avance, sont souvent encore prépubères, et c'est la classe où ils sont le plus victimes d'incivilité. Et puis ensuite, t'es plus grand, c'est classique. Et ce que tu disais, ou la maman qui dit « moi aussi, je me découvre au potentiel », alors là, on rentre dans notre secteur plus psy, c'est-à-dire quelles sont les projections. Sans doute, elle a été en difficulté scolaire à cause de son haut potentiel, elle voit l'histoire qui se répète douloureusement, et là, bien entendu, ça en rajoute une couche dans ses difficultés à le gérer. Alors, il y a plein de malentendus hein, à cause de tout ça.
Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose ? Oui, par rapport à ces situations, alors moi j'ai les plaintes du côté du service hospitalier et c'est intéressant de voir comment les jeunes qui sont accompagnés nécessitent après une intervention auprès des écoles pour, je disais, redonner du mouvement tout à l'heure et pour pouvoir assurer, rassurer les équipes de collaborer. Ça veut dire que quand on observe des signes, les médecins sont là pour, ou les psychologues qui interviennent sont là pour nous aider à affiner nos signes d'observation en classe, mais c'est en classe qu'on est aussi les meilleurs observateurs pour voir qu'un enfant ne va pas bien. Et après, on peut commencer à réfléchir et à créer, trouver des solutions du côté de l'orientation. On commence à envisager aujourd'hui qu'on peut avoir une temporalité différente de scolarité. On l'avait imaginé pour des jeunes en situation de handicap qui sont opérés d'une tumeur et autres, et on fait un bac en 4 ans. Et on commence à se dire que maintenant, on peut peut-être faire aussi un bac en 2 ans, que ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Et on peut commencer à réfléchir au compactage. Et je crois que de plus en plus, dans les représentations, c'est des choses qui viennent. Le compactage, c'est le fait de pouvoir être dans sa classe d'âge et dans son niveau de classe pour certaines matières. Mais pour les maths, on va suivre les cours de seconde alors qu'on est en quatrième. Et ça, je crois que voilà, les deux dispositifs qui ont été phares et moteurs, le collège Les Bâtières et puis le collège Joliot-Curie à Bron et le collège Les Bâtières à Lyon, a permis d'expérimenter toutes ces choses-là. Et je pense que maintenant, on peut les transférer dans l'école ordinaire de plein d'autres collèges. Mais il y a besoin pour ça de travailler ensemble. On ne peut pas travailler tout seul parce qu'il y a quand même besoin d'avoir des médecins qui nous aident à savoir si on est dans du trouble oppositionnel, s'il y a un trouble de l'attention associé, si... Voilà, donc il faut vraiment ajuster des parcours différents et penser une temporalité différente.
Oui, c'est ça. C'est vraiment le rôle de Laurence dans le service, c'est-à-dire de prendre contact avec l'établissement d'origine parce qu'on a vraiment besoin de ce regard que vous nous offrez de ces enfants-là, et puis ensuite assister à la synthèse et puis restituer ce qu'on a pu dire et ajuster au niveau pédagogique. Alors les malentendus, il y en a plein, hein, regardez ça, ça peut être vécu comme de l'insolence. Écris une phrase négative, range ta chambre. Hein. Si vous êtes une enseignante au fait... ou un enseignant au fait de l'humour, mais aussi de la créativité de l'enfant au potentiel, on peut le prendre comme quelque chose de positif, mais on peut aussi le prendre comme quelque chose d'insolent. Des stratégies aussi, ça c'est Océane qui m'a dit ça, et je lui dis mais t'écris pas mal, elle me dit j'ai amélioré mon écriture, vous voyez qu'elle écrit en script, car je m'ennuyais tellement à l'école, et donc il y en a aussi qui trouvent eux-mêmes des stratégies, elle est précoce, trouble d'attention, et elle était dysgraphique au départ, je trouvais qu'elle écrivait bien, mais elle faisait des lignes. Ça, c'est bien les filles, puisqu'elle comprenait du premier coup, et quand les maîtresses répétaient pour que tout le monde ait compris, eh bien elle améliorait son écriture.
Tu avais une stratégie
ça,
aussi.
C'était une stratégie en première. J'interroge un élève de première STMG au bac, et bon, il avait sa liste déjà préparée. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en tout cas, il a listé les textes, il a listé les plans possibles, il a listé les questions, les problématiques possibles, avec plein de liens qui étaient faits. Je trouvais que c'était plutôt intéressant et manifestement, voilà, c'était une stratégie qu'il avait mise en place tout seul.
C'est ça le truc, c'est que les enfants à haut potentiel trouvent des stratégies jusqu'au moment où ils ne les trouvent plus. Et que c'est là que ça ne marche plus. Et tu disais tout à l'heure quelque chose qui est très important, que j'ai décrit, qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que la majorité des enfants à haut potentiel qu'on rencontre, parce qu'il y en a plein qui vont très très bien, qui ne nous poseront jamais de problème et qu'on ne voit pas, mais la majorité de ceux que nous, les professionnels, les psys, on rencontre, sont des enfants qui, quand on leur demande les yeux dans les yeux, dans la consultation, il n'y a pas un moment dans ta vie, tu t'es dit, on pense que je suis à haut potentiel, mais je ne le suis pas. 100% des gamins que je vois, ils me disent, oui, c'est sûr. Et quand je leur dis, mais depuis quand tu penses que tu es un imposteur et que tu n'es pas au potentiel, il me dit, depuis qu'on m'a donné le résultat de mon QI quand j'étais petit. Et depuis, j'attends le moment où on va découvrir le poteau rose. Et quand je commence à avoir des mauvaises notes, c'est là que je m'effondre, parce que c'est là que je me dis, ça y est, j'ai roulé tout le monde, j'ai déçu tout le monde depuis tout le temps, et maintenant, ça apparaît. Alors, il y a ceux qui sont drôles aussi, ils sont tous drôles, ceux que je vois, ils sont tous drôles. Ils ont tellement d'humour et c'est comme ça qu'il faut les accrocher. Hein. Si vous en avez dans les classes, vous savez à quel point on les accroche. Le petit gars, Tom, il est précoce et ça va bien avec la dyspraxie, c'est-à-dire la maladresse globale. Hein. Il est précoce et à un moment donné, il me dit « Arrêtez, je peux vous demander juste un truc, docteur ?» Je dis « Oui ». Il a un an d'avance, donc il est en CM, il était en CM1 quand il m'a dit ça. Et il me dit, il rentre en CM1, et il me dit « Je peux vous demander un truc, docteur ?» Je dis « Oui ». À votre âge, les compas, vous en servez beaucoup, vous ? Je lui dis, ben non. Pourquoi ? Il me dit, ben voilà le numéro de ma maîtresse. Si vous pouvez l'appeler, et lui expliquer qu'elle arrête de m'enlever des points parce que j'ai cassé la mine, parce que j'ai fait des trous dans mon cahier avec ça, etc. Ils sont très drôles. Il y en a qui sont moins drôles. Alors, ils ont tous le souvenir de ce qu'un enseignant leur a dit un jour. Et la plupart des enfants au potentiel qui vont bien, d'ailleurs, me disent « Je me rappellerai tout le temps de la personne qui m'a tendu la main. » Ça a été une maîtresse de primaire, ça a été un prof du secondaire qui leur a servi de mentor. Vous savez qu'Albert Camus, quand on lui a remis son prix Nobel, il a remercié M. Germain, son instituteur. Vous vous rendez compte, il a remercié M. Germain. Il dit « Je me rappellerai toujours de M. Germain. Chez lui, on ne faisait pas du gavage. Et c'est lui qui m'a donné envie d'apprendre. C'est lui qui m'a donné envie d'écrire. » Et il y a Yann qui m'a dit « Un jour, il y a une maîtresse qui m'a dit ça. Et j'ai mieux compris pourquoi on était si exigeant que moi. Elle m'a dit « La vie t'a beaucoup donné, on va beaucoup te demander. » Et c'est vrai. Et c'est souvent ce qu'on fait sans leur dire aux enfants au potentiel. Parce qu'on sait qu'ils ont ce potentiel-là. Et on ne sait pas tout ce qui va avec, on ne sait pas qu'il y a l'anxiété, l'hypersensibilité, le manque de confiance, les difficultés sociales. Et on leur demande plus que les autres, ce qui leur paraît injuste, parce qu'ils ont un très gros sens de l'injustice.
Posture de l'enseignant. 10 idées pour accompagner les élèves à haut potentiel.
Alors pour accompagner les HP, je vous propose 3 types d'idées. Il y en a qui vont vous paraître évidentes, mais vous allez voir, quand on se plonge dedans, eh bien, ça nous aide pour tous les enfants. Hein, j'ai repris les 30 idées que j'ai écrites dans le bouquin sur les 100 idées. Il y a des idées universelles qui marchent pour tout le monde, quelques infos supplémentaires, et à chaque fois, donc, il y aura des interventions de Laurence pour illustrer ça, et des stratégies utiles. Les idées universelles, on les a tous en nous. On n'est pas toujours disponible pour les mettre en place, mais elles sont valables pour tous les enfants. Mais ce qui est valable pour tous les enfants est encore plus valable pour les enfants au potentiel qui ont une lucidité assez incroyable. Alors, ça c'est mon adage, hein. Quand les parents me disent « j'ai un enfant au potentiel », et de plus en plus, on reçoit une dizaine ou une quinzaine de mails par jour, hein, comme nous a montré tout à l'heure Laurence, et ce n'est pas des mails de parents fascinés, comme on peut l'imaginer, très fiers d'avoir un enfant au potentiel, c'est des parents qui sont en difficulté. Et la première chose que je leur dis quand ils me l'amènent petit, ils les amènent très tôt maintenant. À 2 ans, ils ne dorment pas. Hein. C'est des gamins qui, d'ailleurs, pendant toute leur petite enfance, et même la grande enfance, ne dorment pas. Ils ont du mal à s'endormir le soir, en tout cas. Parce que s'endormir, c'est perdre le contrôle et la maîtrise pour des gamins dont l'enjeu, c'est de tout contrôler, de tout maîtriser. Bref, ils ne dorment pas, ils me les amènent à 2-3 ans, et les parents me les amènent comme une poule qui a trouvé un couteau en me disant « On a fait comme on a vu dans les livres de Pernou, et ça ne marche pas du tout. Hein. » Dès le matin, pour l'habiller, à 3 ans, elle veut choisir ses habits. C'est des enfants qui détestent les étiquettes, à tous les sens du terme d'ailleurs. Ils détestent les coutures, ils détestent tout ce qui gratte, hein, et ils veulent choisir. Et la mère me dit, je ne sais pas, ce n'est pas un enfant au potentiel, on fait le diagnostic, oui c'est un enfant au potentiel, mais n'oubliez pas un truc, vous avez un enfant qui n'est pas tout à fait comme les autres, mais comme les autres, c'est un enfant. Donc comme les autres, il a besoin d'un cadre, de limites, et de toutes les postures éducatives et pédagogiques dont on va parler maintenant.
Oui, je crois qu'on peut mettre le mot élève à la place. J'aime bien le parodier aussi, parce que ce sont des élèves pas tout à fait comme les autres, mais comme les autres, ce sont des élèves. Et je crois que là aussi, c'est bien de se remettre dans sa posture d'accompagnant éducatif par rapport à un élève.
Des élèves. À nous de leur faire fabriquer une montgolfière pédagogique, hein, pour qu'ils puissent s'élever, hein, et puis voir de haut comment ils fonctionnent. Tant qu'ils sont la tête dans le guidon et pris dans leurs difficultés, eh bien, ils n'avancent pas. Alors, c'est quoi une posture contenante et empathique, hein? C'est ce que je prône pour les parents, pour les psys, pour les enseignants, pour tous les adultes qui s'occupent de ces enfants-là. Confiance, cohérence, on va les décliner très vite, hein, mais on va les décliner. Humilité, alors conviction, humilité, exemplarité, bienveillance, bonne distance, empathie, métaphore, confidence. Ça vous parle? C'est valable pour tous, hein? On essaie de le faire avec tous les enfants. Confiance. Mais eux, ils nous jugent tout de suite là-dessus. Hein. Alors confiance, on va les prendre les unes après les autres, donc vous pouvez les recopier tranquillou. Confiance, quand ils viennent nous voir, nous, en général d'ailleurs, ils ont eu une certaine errance déjà au niveau médical. Hein. Ils sont allés voir d'abord l'orthophoniste, hein, parce que quand même les maîtresses de premier degré, on voit d'abord chez l'orthophoniste, puis ensuite on s'est rendu compte que ce n'était pas qu'orthophonique son problème, donc après ils sont allés voir d'autres rééducateurs dont ils avaient peut-être besoin, puis le médecin de famille, puis une psychologue, ça n'a pas forcément bien passé, puis un magnétiseur, puis un ostéopathe, puis, et puis en bout de course, ils arrivent chez nous, à l'hôpital, et là, ils se demandent ce qu'ils viennent faire à l'hôpital. Et la première chose que fait un enfant à haut potentiel, petit, moyen ou grand, qui est cet adulte qui vient me demander des comptes? On a 5 minutes pour faire la différence, parce que quel que soit son âge, je dis, mais c'est qui ce mec ou cette femme? Qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce que j'ai affaire à un pro ou à un bouffon? On va vite voir. Hein, et on va vite voir s'il a la posture adéquate. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que chez eux, on a beau être un très bon enseignant, pour la majorité, on a beau être un très bon parent, pour les trois autres enfants qu'on a eus, on a beau être un très bon médecin ou psychologue, c'est pas ce qu'on va dire qui va compter, c'est la qualité de la relation qui va primer sur le contenu de la relation.
C'est ce que je voulais dire par ce sont des élèves avant tout, et je crois que c'est la qualité de la relation qui compte avant de transmettre un savoir.
Exactement. Alors cette qualité, elle passe par la posture. Ah oui, alors, quand je ne sais pas, je leur demande. Hein. Salut Louis, je vais faire un sondage, je fais une conférence sur l'adolescence. Qu'est-ce qui fait que même en pleine adolescence, un ado accepte de continuer à venir voir son psy? Moi, je suis scotché. Hein. Ils rejettent tout en bloc, les écoles, les parents, tout. Il n'y a qu'un truc, ils viennent. Et celui d'hier, pareil, qui met le feu. Le dernier que j'ai vu hier soir, il m'a dit en partant à 14 ans, il m'a vraiment touché. 14 ans, un QI de 17 ans, une taille de 17 ans et des difficultés de partout. Et en partant, il me dit, je peux vous revoir quand? C'est-à-dire qu'ils rejettent tout sauf ça. Alors, donc, je leur demande. Et Louis, qui avait eu des difficultés d'apprentissage, qui était très, très dyslexique et de troubles d'attention, il me dit, voilà, là, plusieurs raisons. La première, il pense être vraiment perdu, il a besoin d'un soutien extérieur autre que celui de ses proches. La seconde, c'est qu'il pense être en contact avec une personne qui fait partie du monde des adultes, mais qui, malgré tout, le comprend. Hein, ça, c'est tellement important. Et la troisième, peut-être qu'il a noué une forme d'amitié. Alors, comme ils sont très malins, cette nouvelle génération, ce que j'appelle la génération Z, c'est-à-dire qu'ils ne nous prennent pas de front, mais ils savent très bien obtenir ce qu'ils veulent. Il est chez Bocuse et il me dit « Si vous avez d'autres questions, je serais ravi de vous aider. J'ai eu 11-8 chez Bocuse. Il me faut 12 pour passer en deuxième année. » En gros, si vous pouvez passer un coup de fil. Je n'ai pas de problème en pratique, mais un peu en théorie. Donc, c'était le message subliminal. Fourmi, je l'ai appelée Fourmi pour changer son nom. Et Fourmi, elle a 15 ans et elle me dit « Parce que si on a un bon feeling, le psy, c'est celui qui ne te juge pas. » Alors, attention, parce que ça revient dans tous les SMS. Des enfants en général, des adolescents en général, mais des précoces en particulier. Ne me jugez pas. Jugez mon comportement, jugez mon attitude, mais ne me jugez pas moi. Dissociez en permanence mon comportement et ma personnalité, on va y revenir. Et ça, c'est très important. Et on ne peut pas leur dire que tu n'es pas assez mature pour comprendre. Confiance. Alors, vous avez vu que cette relation de confiance, elle se passe sur une absence de jugement, sur une cohérence aussi. On doit être cohérent entre la forme et le fond. C'est-à-dire que si on dit « je vais t'enseigner comme ça, je vais te parler comme ça », puis qu'on fait l'inverse, il le voit tout de suite. Est-ce que cet adulte en face de moi est en adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il fait? Et ils passent leur temps, les gamins, qui me disent « mais vous ne vous rendez pas compte, mes parents ils font l'inverse de ce qu'ils disent » ou « mon psy, jusqu'à maintenant, il me disait un truc, il ne le faisait pas ». Et il faut être sincère. Là encore, posture avec tous les enfants, particulièrement avec les enfants à haut potentiel, parce qu'ils ont un problème avec la tolérance, j'aurais dû le marquer, ils sont intolérants. Et je passe mon temps à essayer de leur dire, leur apprendre la nuance. Ils ne sont pas nuancés. Conviction, c'est fondamental. Hein. Est-ce que j'ai l'intime conviction que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que j'ai vraiment envie de convaincre, d'apprendre que ce que je vais leur faire, c'est bon? Que ce qu'ils pensent être impossible, ça va être possible? Est-ce que je parle avec... mon cœur à son cœur, c'est ça la conviction. Il y a un adolescent comme ça qui, c'est moi hein, qui ai pris cette vanne, il n'est pas revenu, c'est rare qu'il ne revienne pas, il y en a un qui n'est pas revenu, et ça devait être un jour où j'étais fatigué, et j'ai rappelé qu'il ne revienne pas, parce que si on ne rappelle pas, il pourrait vraiment qu'on n'a rien à faire, et je dis à la mère, mais pourquoi il ne vient pas? Elle me dit, je lui dis, c'est mal passé, il me dit, si, mais il est sorti, t'es déçu, il m'a dit, j'ai l'impression qu'il fait juste son boulot. Et là, c'est dur, ça. Hein. Et là, je me suis dit, j'ai raté un truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis pas impliqué. Et il l'a senti, et c'est mort. Hein. Et après, pour rattraper le truc, alors j'ai rattrapé le truc, je l'ai appelé le gamin. Et je lui ai dit, t'as dû être déçu, effectivement. Je pense que ce jour-là, j'étais pas bien. On peut peut-être en reparler. Et là, ils reviennent, et là, ça ouvre le dialogue, alors que le dialogue était fermé. Ça va avec l'humilité. Hein. L'humilité, c'est être capable de dire qu'on s'est trompé. Et vous savez qu'on est obligé de faire preuve d'humilité, ce qui n'était pas le cas au siècle dernier, au millénaire dernier. Parce qu'on est dans une situation... pas les plus jeunes d'entre vous, hein, ceux de la génération Y, ceux qui ont moins de 35 ans, mais nous, les X et les baby-boomers, surtout, eh bien, on est une génération où, pour la première fois au monde, les enfants nous ont appris des trucs. On a tous demandé à nos enfants de nous installer une application ou de nous formater quelque chose. C'est-à-dire que la légitimité du papa, de la maman, du prof, du psychologue, du médecin, du chef de service, n'est plus innée, comme elle était autrefois. Il faut aller l'acquérir. Il faut aller la chercher. Et pour la chercher, il faut être capable de dire, il y a des choses que je ne sais pas faire. Et systématiquement, quand ils me disent je joue à tel jeu, ou je regarde telle application, je dis je ne connais pas, ou je ne sais pas, tu peux me montrer. Hein. Et faire preuve d'humilité, c'est quelque chose qui nous rend extrêmement crédibles. Hein. Et nier que cette génération-là sait plus de choses que nous, que cette génération-là est plus informée que nous, surtout, et plus vite que nous en temps réel, eh bien, on n'est pas des professionnels. Être un professionnel, c'est savoir reconnaître ça. Et être capable de montrer qu'on doute. C'est la différence entre conviction et certitude. L'humilité, c'est la différence entre conviction et certitude. Et là, les ados, ils ne nous ratent pas. Et les ados précoces en particulier. Et pour être exemplaire, hein, ça c'est le cinquième point, c'est fondamental. Attention, on éduque, on apprend des choses qui sont le contenu, mais on enseigne et on soigne et on accompagne, non pas avec ce qu'on dit, mais avec ce que l'on est. Et si on n'est pas exemplaire, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué pour les adolescents actuellement, avec ce qu'ils voient dans le monde, où les adultes ne sont pas exemplaires, les hommes politiques ne sont pas exemplaires, et bien entendu, leurs idoles qu'ils voient dans la télé-réalité ne sont pas exemplaires non plus. Un ado précoce, il a besoin d'un mentor, on l'a vu tout à l'heure. Ils ont tous eu, à un moment donné, quelqu'un en qui ils ont eu confiance. C'est-à-dire que ce n'est pas grave. On voit tellement de situations précaires, on voit tellement de parents qui partent en cacahuète, il suffit qu'il y ait une autre figure d'attachement qui soit rassurante, qui soit un éducateur, un enseignant, un rééducateur, et à ce moment-là, le gamin se trouve ce mentor et va bien. Bienveillance, ben la bienveillance, on sait ce que c'est ben oui, je t'écoute, mais avec fermeté. Vous savez que c'est un de mes credos, la fermeté bienveillante, hein. Immédiatement, la fermeté rassure, contient. Je ne suis pas d'accord. Je disais hier à un gamin qui me disait il n'y a qu'un endroit où je suis bien, c'est quand je joue à... Vous savez que les précoces, les petits, ils jouent à Minecraft et les grands, ils jouent à League of Legends. Et il me dit, il n'y a que là que je suis bien. Parce que j'ai des amis comme moi, parce que je partage. OK. D'accord, je comprends. Bienveillance. Mais la fermeté, c'est tu dois passer à table à l'heure. Tu ne dois pas laisser tomber des activités autres. Tu dois aller à l'école. C'est-à-dire que chaque fois que on accole la fermeté et la bienveillance avec tous les enfants, et en particulier les précoces, ça marche. La bonne distance, hein, on passe notre temps à formater la bonne distance de la bonne posture d'enseignant, de médecin, de parent, pas toujours facile, et trouver quelle est la limite entre antipathie et sympathie. Ça, c'est typique des précoces. Hein. Les précoces déclenchent beaucoup d'antipathie, peuvent déclencher beaucoup d'antipathie quand il y a une incompréhension, peuvent déclencher aussi de la sympathie parce qu'on est un peu fasciné par eux. Eh bien, il faut trouver la bonne posture entre ces trois pointes. Et la bonne posture, c'est l'empathie. Et si on sent qu'on glisse vers la sympathie parce qu'on se retrouve en lui, parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils sont créatifs, eh bien, on n'est plus un bon professionnel. Il n'attend pas qu'on partage, qu'on vive comme lui, qu'on lui dise « Mais oui, mais moi aussi, j'étais comme toi. » Il s'en fout qu'on soit comme lui. Ce qu'il veut, c'est qu'on le comprenne. Si on est dans l'antipathie, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment tu fonctionnes, je te déteste comme tu me parles, je déteste que tu donnes l'impression de savoir mieux que moi, ce n'est pas bon non plus. Et l'apathie, bien sûr, il ne supporte pas. L'apathie, c'est-à-dire ton émotion, ni je la comprends, ni je la déteste, je m'en fous. Ce n'est pas bon du tout. Donc, l'empathie, c'est ça. Hein, c'est l'empathie, c'est vous savez, cette espèce d'image où on fonctionne de cerveau à cerveau. C'est-à-dire qu'on ne se mélange pas, mais je sais ce que tu ressens. Beaucoup d'enfants précoces diraient ça. Hein. Mélangez pas ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité, c'est ce que je suis, et mon attitude, ça dépend de qui vous êtes. Et en fonction de vos contre-attitudes, je vais pouvoir réagir de façon positive ou négative. Et ça, c'est tellement fréquent et tellement vrai chez les précoces. Alors là, vous n'avez pas bien à lire, mais il lui met à un moment donné, j'ai photographié dans mon bureau, j'en ai marre. Et qu'est-ce qu'elle lui... Vous arrivez à lire? Moi, je n'arrive pas à lire. Message reçu, mais trouve d'autres façons de le dire. C'est ça, l'empathie. OK, j'ai compris que tu en avais marre, il faut qu'on en parle, hein, mais je ne déchire pas ta copie, ou au contraire, je te dis pas c'est génial, qu'est-ce qu'il est drôle, qu'est-ce qu'il y a de l'humour. Hein. Pareil, hein. Et là aussi, il lui a fait des trucs avec beaucoup d'humour parce que ça le gonflait, cet exercice, il savait par cœur. Hein. Ça me fait rire, mais n'en abuse pas. Chaque fois qu'on arrivera à déposer par écrit, gravé dans le cahier, dans la roche, qu'on a compris comment il fonctionnait, mais qu'en même temps, on a une mission d'enseignant, de rééducateur ou de médecin, eh bien, ça marche. Regardez celle-là. Le pauvre gosse, tous les jours, Charles, il ramenait son carnet avec des mots. Et un jour, il ramène son carnet avec un mot. Sa mère dit, qu'est-ce qui s'est encore passé? Il est en cinquième ou je ne sais pas quoi. Et là, il y a simplement un prof qui a pris le carnet et qui a marqué « Je félicite Charles pour l'apprentissage de sa leçon ». Vous imaginez comme ça décontamine l'ambiance, que les parents déjà sur les nerfs, quand ils voient le cahier qui arrive en disant « Qu'est-ce qui s'est encore passé à l'école ?», ils ouvrent et ils voient un mot positif. Ça ne mange pas de pain à faire, hein, ça, hein, et c'est tellement, tellement vrai. Hein. Imaginez que la police fasse comme ça. Vous venez à Lyon, là, vous n'avez pas trouvé la sortie sur le périphérique, vous tournez à un moment donné, et au moment où vous êtes en retard pour arriver ici, il y a la police qui vous dit « Garez-vous, là. Qu'est-ce que j'ai encore fait ?» Et à ce moment-là, il y a deux policiers qui descendent et qui vous disent « Bravo. Ça fait un quart d'heure qu'on voit que vous cherchez la sortie, vous avez toujours mis votre clignotant, vous n'avez pas dépassé le 90, alors là, chapeau. Et on sent que vous êtes pressé, tenez des bons d'essence. » Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus positif que de se prendre systématiquement, dès qu'on voit la police, un mot négatif, hein? Donc l'empathie, c'est quelque chose de fondamental. Ça ne s'apprend pas forcément dans les livres. On l'a ou on ne l'a pas. Je pense que si on a choisi nos métiers, c'est qu'on l'a. Et ça vaut la peine de le faire. Dans les postures, il y a un truc qui est très important au niveau éducatif, rééducatif, psychothérapique et pédagogique, c'est les métaphores. Les précoces adorent la métaphore. Je passe mon temps à en utiliser. Ça les stimule leur créativité. Ils font des liens, ils font des ponts. Et la métaphore, c'est un pont. C'est une pensée analogique. Hein. Et puis, ça permet de réanimer l'humour. Il dit, à quoi ça sert que je viens de vous voir ? Je lui dis, t'es un volcan, tu bouillonnes. Bah oui, mais si je bouillonne, je bouillonnerai avec vous. Je lui dis, ben non, je vais te permettre de faire sortir quelques fumerolles. C'est-à-dire, tu sais, c'est pour éviter que le volcan explose, il y a des petits bouts de fumée qui sortent d'un peu partout. Il vaut mieux que les fumerolles sortent et que ça évite la violence que tu as à la maison quand tu présentes l'addition à tes parents le soir parce que tu t'es ennuyé toute la journée avec l'école. J'aime bien aussi cette métaphore-là des palétuviers. J'ai pensé à ça en allant aux Antilles il y a 2 ans. Vous avez jamais vu ça, les palétuviers, c'est assez incroyable. Ils poussent en milieu marin. Alors ça va tellement avec ma vision des enfants à haut potentiel qui est les sentinelles. Vous savez, ils sont un poste avancé, ils voient les dangers avant tout le monde. Donc ils préviennent tout le monde en disant au secours, il y a un danger, personne ne voit le danger. Les parents n'ont pas encore compris qu'ils allaient se séparer dans 5 ans, mais lui, il l'a vu avant tout le monde. Hein. Et ils ont déjà vu que les attentats, par exemple. Quand je leur ai dit, tu as été marqué par les attentats, ils m'ont dit, mais non, je n'ai pas été marqué. Ça fait 2 ans que je le sais qu'il y avait des attentats. Je ne savais pas quand. Mais je savais déjà. Bon, ils sont toujours en avance. Eh bien, les palétuviers, c'est ça, hein, c'est ces arbres qui poussent en marge, dans l'eau de mer, mais ils sont adaptés à la salinité, ils ont des racines qui ressortent, donc ils récupèrent l'eau de mer, et ils vivent en autarcie, ils vivent autonomes, et ils sont fondamentaux, les palétuviers, parce qu'ils protègent la côte, c'est-à-dire que c'est les premiers à subir quand il y a un tsunami ou quand il y a des grosses vagues. C'est un écosystème extrêmement sophistiqué et je pense que ça se rapproche du système qu'utilisent les enfants à haut potentiel. Enfin, confidence, eh bien, il faut leur dire. Il faut leur dire, s'ils viennent vous voir à la fin du cours, s'ils viennent nous voir, nous, c'est tout ce que tu me dis, c'est secret. Ils ont tellement de mal à lâcher prise, ils ont tellement de mal à dire ce qu'ils ressentent que les assurer qu'ils ont un lieu où ils peuvent lâcher prise et dire des choses et que ces choses ne seront pas répétées, c'est fondamental. Moi, je passe mon temps à essayer de les solliciter, leurs confidences, parce qu'ils ont l'espace psychique qui est tellement occupé par des pensées inadéquates qu'à un moment donné, ils n'ont plus d'espace psychique disponible pour apprendre et que c'est très compliqué pour eux. Enrichir.
Alors, ça, c'était ma partie. Donc, effectivement, quelle posture d'enseignant on peut avoir par rapport aux jeunes? On aurait tendance à vouloir les nourrir beaucoup en leur donnant des exercices en plus. Attention à la répétition, parce que la répétition les ennuie aussi. Et puis, l'enrichissement, essayer de trouver des activités qui leur permettent d'aller plus loin sans forcément rentrer dans la répétition. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des propositions pédagogiques, mais dans la posture, je crois que c'est important de le penser et de varier les exercices, et que si à un moment donné, on peut laisser l'élève aller plus loin que d'autres, pourquoi pas? Je crois qu'on peut l'envisager, y compris dans le lieu de la pensée unique, le collège. Aller au fond des choses, donc voilà, c'est aussi des postures dans un domaine précis, hein, ne pas faire comme s'il savait tout, parce que je crois qu'il faut quand même l'accompagner, même s'il nous renvoie qu'il sait beaucoup de choses. Les inviter à faire des liens avec d'autres thèmes, leur permettre d'aller au-delà de ce qu'ils ne maîtrisent pas, leur proposer une activité dans laquelle ils vont pouvoir trouver du défi. Je crois que ça, c'est important de concevoir. Donc, augmenter la complexité, je vous donnerai un exemple par la suite. Et puis, trouver un mentor, un tuteur. Je crois qu'au sein de la classe ou au sein d'un établissement, on peut parvenir à mettre en place comme ça le tutorat pour pouvoir aider à à vivre le lieu du collège et le lieu aussi du lycée. Je pense à ces lieux qui sont encore des lieux de souffrance parfois pour ces jeunes. Alors, dans les appréciations, c'est important, hein, les notes, c'est important. C'est ça, la plainte scolaire, elle arrive chez le médecin. Travail sérieux, tu fais une lecture intéressante des textes. On attend maintenant que tu développes l'analyse de tes relevés. Tu vas progresser sans doute, ne te décourage pas. Donc, valoriser, expliciter les attentes. Alors, c'est valable pour tous les élèves, mais je crois que pour eux, c'est essentiel de leur demander, de leur dire ce qu'on attend. Un contrôle de lecture, hein, bien précisé à chaque fois ce qu'on attend, analyse à justifier, pense à justifier par une référence au texte en citant la ligne, enfin voilà, des choses qui sont contraignantes parfois pour eux. Pense à insérer un cadre pour l'appréciation, merci, hein, toujours l'humour si on peut. Des analyses dignes d'intérêt, mais en attendant que tu explicites ta démonstration en t'appuyant sur des références au texte. Toujours l'idée d'expliciter les attentes.
Témoignage.
Donc ça, c'était les premières postures, c'était les 10 premières idées enrichies par l'enrichissement justement qu'on peut leur faire. Maintenant, je vais vous donner quelques informations supplémentaires. Il y a 10 autres idées qui rappellent simplement que le haut potentiel, ce n'est pas uniquement un QI, mais qu'il y a, il y a plein de choses qui sont aussi à prendre en compte. Alors là encore, ben, pour démarrer, je leur pose des questions. Je cherche, pour illustrer une conférence des témoignages, tu pourrais me dire en quelques mots par SMS, en quoi ta précocité t'a le plus gêné? Merci à toi. Et oui, ça, c'est des trucs que j'envoie dans les aéroports quand je m'ennuie. Et vous voyez, on est le 22 mars à 13h17, et après, ça tombe, mais à toute vitesse. C'est-à-dire que la loyauté de ces enfants-là, je ne pense pas qu'il y ait d'autres populations d'enfants qui seraient aussi attentifs à rendre service quand ils peuvent nous aider. Et donc là, c'est Marie, 15 ans, qui me dit, eh bien moi, tout simplement, c'est l'adaptation avec les autres qui est complexe, et donc le recours à la solitude. Et ça, c'est apparu dans tout les réponses. C'est-à-dire, ça, c'est des lycéens, hein, des collégiens, pardon. Des collégiens. Benjamin, j'ai toujours des difficultés avec la vie en groupe. Il est assez fréquemment arrivé que les enfants de mon âge me craignent, voire me rejettent pour ma différence. J'espère que ça vous sera utile. Vous avez vu l'empathie de ces gamins aussi. Hein. Sinon, ben, vous me rappelez hein, si ça ne vous est pas utile. Et Marie, 17 ans, lycéenne. Incompréhension, inadéquation au monde, solitude, besoin de se distinguer à la fois. Et ça, c'est tellement fort. Besoin de se distinguer et à la fois besoin de se sentir comme les autres. La différence fait peur aux autres, mais également à soi-même. Besoin de se sentir aimé. Interpénétration des idées, confusion des sensations et des sentiments. Mais lucidité sur soi. La maturité de ces gamins, mais c'est un truc de fou. Et ça, c'est, tous ils me disent ça. Je ne veux pas être dans les populaires, mais je ne veux pas être dans les bolosses non plus. Il y en a un qui m'a dit la semaine dernière, ça y est, maintenant ça va mieux au lycée, mais on s'est trouvé une table, on est un groupe d'ex-bolos. Vous connaissez les bolos, hein, c'est, les bolos, c'est les paumés de la vie, c'est ceux qui n'ont rien à foutre de s'habiller en Hollister ou en Abercrombie et qui s'intéressent à l'Atlantide et à l'élevage des araignées et non pas aux Pokémon ou à la télé-réalité. Mais je trouvais, faire une table d'ex-bolos, je trouve ça très bon. Mais ils passent leur temps, ils ne veulent pas être dans les populaires. Alors attention, parce que souvent, il y a une confusion. Il y a des psychiatres qui me les adressent en me disant « Vous n'avez pas vu, vous dites qu'il est précoce, il est Asperger. Regardez comme il est habillé. Asperger, vous savez, c'est les autistes de haut niveau. Il est mal coiffé, mal fagoté. Il a des intérêts restreints. Évidemment, il s'intéressait qu'à l'astronomie et aux dinosaures. » Et en fait, la grosse différence, si vous avez des élèves comme ça, qui ont ce look-là, hein, ça ressemble à un Asperger, un autiste de haut niveau, que j'adore d'ailleurs, hein, parce que c'est des gamins extrêmement intéressant, extrêmement droit, perfectionniste, qui nous déteste d'ailleurs. Il déteste tout ce qui n'est pas Asperger. Hein. Et d'ailleurs, vous savez comment il nous appelle? Il nous appelle les neurotypiques. Parce qu'il trouve que les neurotypiques, on est extrêmement hypocrites. Hein. Et ce qui les tue, c'est ça, qu'on puisse faire des sourires alors qu'on n'a pas envie de sourire, qu'on puisse dire alors qu'on n'a pas envie de dire, etc. Ce qui fait la différence entre un Asperger, donc mal habillé, pas préoccupé par la mode, ou en tout cas pas la mode de celle-là, quoi, la mode d'avant, et intéressé par des choses très particulières et un haut potentiel, c'est l'empathie, justement. C'est-à-dire que l'Asperger, lui, souffre d'une absence d'empathie. Il ne sait pas ce que la prof attend, ce que les autres attendent. Ils viennent nous voir en disant « Mais comment il faut que je me comporte pour avoir des copains? Comment il faut que je parle à une fille? Qu'est-ce qu'il faut que j'écoute comme musique? Comment il faut que je m'habille ?» Alors que le haut potentiel, il vous dit « Mais je sais très bien ce qu'il faudrait que je regarde le soir à la télé pour pouvoir en parler le lendemain. Je sais très bien quelle série il faudrait que je regarde. Et que si je regardais Game of Thrones, et bien c'est, les précoces regardent beaucoup Game of Thrones, mais si je regardais les séries qu'ils regardent tous, je pourrais discuter avec eux. Mais je ne veux pas ça. Je ne veux pas m'habiller comme ça. Je veux pas parler comme ça, je veux pas fumer du shit, je veux pas boire comme ils boivent. Hein. Ils n'ont pas du tout les codes, surtout à l'adolescence, où on va pas se mentir, hein, y a quand même des toxiques de partout très tôt, et bien eux, ils n'en veulent pas. Bref, donc ils hésitent, ils sont perdus entre le besoin de rester eux-mêmes, mais en même temps de ne pas se faire rejeter. En bref, pareil, elle me dit la même chose. Ça m'a toujours gêné dans mon rapport aux gens, notamment au collège, en raison de la pression sociale, poussant à ne pas sortir du moule et ne pas participer en classe. Deux aptitudes que je n'ai jamais réussi à gérer. Et elle me dit, il y a 17 ans, et encore aujourd'hui, alors qu'elle est en fac, en Hippocagne, encore aujourd'hui, ça me gêne pour communiquer avec les personnes. Et ça, c'est important. Attention, ce n'est pas fini parce qu'ils sont sortis du lycée. Hein, c'est Cyrulnik qui dit ça. Ce n'est pas parce que le vilain petit canard est devenu cygne que tout ce qu'il a vécu en tant que canard comme souffrance a disparu. Hein. Donc, protégeons-les quand ils sont petits.
Les différences.
Alors, c'est des enfants juste un peu différents. Et alors, je vais vous décliner toutes les différences. C'est les 10 points suivants. L'arborescence, fulgurescence, prédominance, hypervigilance, etc. Arborescence, je vais aller vite parce qu'on va vous en parler tout à l'heure. Ils ont cette pensée, et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Ils ne sont pas tous avec cette pensée, vous savez, qui éclaire tout à la fois. Quand on leur pose une question, ça va plus vite, et ils vont solliciter des aires cérébrales que les enfants standards ne sollicitent pas. Ce qui leur ramène la réponse, comme le chalutier qui balance son filet, ça lui ramène la réponse, mais il ne sait pas comment il l'a trouvée. Ça marche en primaire, c'est beaucoup plus compliqué quand il arrive en secondaire. Ah ouais, j'avais un exemple, je vais vous le montrer quand même. Ça, c'est ma spéciale, celle-là. Pourquoi ils ratent médecine, les gars? Les gars, ils ratent médecine parce que l'épreuve la plus dure en première année de médecine, c'est la philo. Et la philo, il faut écrire. Et c'est une précoce. Je lui dis, mais pourquoi vous n'avez plus que des filles qui réussissent la première année de médecine? Elle me dit, bah, parce que les garçons ne savent pas écrire. Et quand vous avez une copie de philo, c'est très compliqué. Mais il n'y a pas que ça. Hein, quand il faut apprendre la mitochondrie en médecine, du grec mytho, cellule, usine, ATP, il vaut mieux l'apprendre en mode bourrin. Hein. C'est-à-dire que si vous vous posez des questions à chaque fois sur comment ça se fait cette cellule, qu'est-ce que c'est que ce truc, et si en plus vous y mettez de l'affect comme mettre les précoces, c'est quoi ce truc? Ah ouais, ça me rappelle un berceau, c'était bien quand j'étais dans le ventre de maman, c'était le meilleur moment si je pouvais y retourner. Un mytho, mais le plus grand mytho, je croyais que c'était Pinocchio, puis il y a des mensonges d'État, il n'y en a jamais eu tant. Une usine, mais ça pue, la planète est foutue. Ah ouais, ça me rappelle aussi le Pink Floyd, parce qu'ils aiment bien Pink Floyd, si vous voulez. Hein. Donc quand ils arrivent à l'école et que les autres, ils écoutent Maître Gim, et qu'eux, ils écoutent Pink Floyd, c'est sûr que c'est compliqué. Une cellule, j'aimerais pas être en cellule, pas tout seul, ou alors avec Michael Scofield. L'ATP, mais l'ATP, ah oui, je voulais être comme Federer, qui est précoce, etc. Il est très, 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 très loin de la mitochondrie, vous voyez le truc. Hein. Et si on ne leur a pas appris rapidement à canaliser l'arborescence de la pensée, ben, ils ne s'en sortent pas. Hein. Alors, tu avais aussi des petits exemples.
Oui, par rapport à cette pensée en arborescence, parfois, travailler en projet en classe de seconde, ça peut être une idée pour essayer de leur apporter davantage d'entrée dans les apprentissages avec plaisir. Donc, j'avais listé des objectifs pédagogiques par rapport à un projet qu'on était en train de faire, donc pour fédérer, remotiver, redonner confiance, travailler en interdisciplinarité et du coup faire valoir leur potentiel. Donc on est en seconde, sachant qu'on commence à être en lycée à envisager une pensée un peu plus divergente. Donc c'est vrai que si on a des approches un peu différentes avec eux, je crois qu'ils retrouvent du plaisir. Pas tout le temps, mais un petit peu. Donc on avait travaillé autour de défier la gravité. Voilà, on avait organisé autour de pratiques artistiques et je trouve que la pratique artistique est souvent un bon moyen d'aborder... les apprentissages d'une autre façon. On avait travaillé avec des circassiens, donc on était allé assister à des spectacles et on a travaillé avec la prof de physique. Alors moi, je suis professeur de français. On avait travaillé sur défier la gravité pour faire se croiser ces deux notions dans nos deux disciplines. Tout ça pour vous dire que voilà, on pouvait essayer, par rapport à cette pensée en arborescence, regarder, utiliser des caractéristiques pour essayer de comprendre ce que c'était que défier. Alors c'était défier la gravité, on est parti de ça avec la classe. Aller contre, lutter, défier c'est gagner ou perdre, c'est lancer un défi à quelqu'un, ne pas croire, ne pas se fier, on ne peut défier l'invisible, défier la gravité. Certains scientifiques sont morts pour défendre leurs idées. C'est défier, c'est aussi la rébellion, l'adolescence, l'irrespect des règles. Bon, il y avait une jeune fille au potentiel et effectivement on était parti sur ces définitions de notions, la gravité, être grave, être bizarre, c'est la dépression, le blues, c'est l'équilibre, c'est des événements graves, c'est des actes plus ou moins graves, des émotions, la pesanteur, la force invisible, des chuteurs, en peinture, le cri de Munch. Et donc, voilà, on avait cette pensée en arborescence qui pouvait permettre à la fois de faire valoir toutes les idées de certains jeunes et puis en même temps de commencer à l'organiser, à la restituer peut-être autrement que de façon rationnelle. Voilà, d'autres, essayer de leur donner le plaisir d'apprendre avec d'autres traces écrites qu'un cours traditionnel. J'avais travaillé avec une classe de seconde, on se retrouve à chercher une trace écrite et il y a un élève qui était au potentiel que j'ai mis au tableau et qui a utilisé une carte heuristique pour rendre compte des deux parties. Dans quelle mesure cette scène est-elle une scène comique? Oui, c'est une scène comique et donc c'est la partie en haut rouge. Et puis, mais avec des aspects inquiétants, donc on voyait les deux visées de cette scène. Et c'était intéressant parce qu'à la fin, je leur ai dit, qu'est-ce que vous préférez, garder la trace écrite linéaire ou bien celle-ci? Et pour bon nombre, cette forme-là a été intéressante. Pas forcément pour tous, mais en tout cas, bon nombre ont été à répondre. Donc finalement, s'intéresser à d'autres formes de rendu sert à d'autres élèves aussi de la classe, pas seulement les hauts potentiels. Donc ça enrichit, c'est intéressant. Voilà, valoriser la pensée créative, donc là aussi anticiper, j'avais des élèves de seconde, il s'agissait de lire une œuvre intégrale, et enfin une lecture à la maison, et donc je devais les interroger là-dessus, on appelle ça un DS de lecture cursive, et je me suis rendu compte que personne ne s'était préparé, ne savait, alors mes élèves en difficulté n'avaient absolument pas anticipé sur l'idée d'un contrôle qu'ils pourraient avoir. Et j'avais un élève qui était au potentiel, et on est parti sur finalement comment je vais me faire évaluer, sur quel type de sujet, et c'était intéressant parce que on est arrivé à, alors on avait des QCM hein, pour les élèves les plus scolaires, mais on est parti sur écrire une lettre à Racine pour lui parler de sa lecture de Bérénice, inventer un poème, choisir 5 accessoires de théâtre pour jouer la pièce, justifier son choix, créer un totem de lecture, inventer une 4e de couverture. Donc il y avait des choses assez ordinaires et puis il y avait des choses un peu différentes. Et j'ai trouvé intéressant de pouvoir les faire valoir à ce moment-là, au moins déjà dans simplement la formulation. Alors il y a des élèves qui ont découvert des horizons avec ça. Donc voilà, valoriser la pensée créative. Alors, Valentin, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a l'impression de tricher parce qu'il ne fournit pas d'efforts, a un sujet de français à faire. Alors Valentin, il est en seconde, je pense qu'on n'en a pas trop entendu parler en troisième et avant. Il attendait patiemment de trouver un peu de plaisir en seconde. Il demande une option sport qu'il n'a pas parce qu'il avait un bulletin de troisième très moyen avec des appréciations peut-être pas très bonnes. Donc option sport lourde, refusée. Il est déçu, il se dit je vais peut-être quand même m'éclater au lycée. Il arrive au lycée et finalement il s'ennuie parce que je crois que il sait pas forcément qu'il est plutôt au potentiel, mais je crois qu'il vit ces choses-là. Alors il a un sujet d'invention à faire, donc évidemment coup de téléphone, comment je fais, et son sujet donné par un enseignant qui donne les contraintes d'écriture et j'ai simplement accompagné le travail. Donc il s'agissait de rédiger la description d'un paysage, d'un lieu ou de brosser le portrait d'une ou deux personnes et à partir d'une photographie ou bien d'une peinture. Donc il choisit « Voyageur au-dessus d'une mer de nuages » de Friedrich et il va suivre les contraintes d'écriture qui lui sont données. Alors, commencer par un brouillon, il va utiliser les couleurs, il m'envoie, on fait des allers-retours, il commence à écrire. Et finalement, je crois qu'il a trouvé du plaisir et de la complexité et que ça l'a fait écrire. C'est-à-dire que ce jeune-là, il aurait rendu son devoir probablement et aurait eu une note correcte parce qu'il avait fait ça en une demi-heure. Et finalement, il y a passé beaucoup plus de temps que ça, jusqu'à me dire, allez, je crois que maintenant on a atteint le sommet. J'ai passé beaucoup de temps, il avait dû passer 8-9 heures. Je pense qu'il n'avait jamais passé 8-9 heures sur une écriture et une réécriture. Simplement parce que j'ai accompagné ses recherches et puis je lui ai donné un peu de grain à moudre aussi dans ses recherches de vocabulaire. Donc la partie en haut, c'est le brouillon, il suit les étapes là, avec soin, ici il cantonne, champ lexical aérien, il a cherché du vocabulaire, on en discute, il en rajoute et puis ensuite il commence à écrire. Alors c'est pas très développé dans un premier temps pour un élève de seconde, donc ça aurait valu une bonne note mais pas plus que ça. Et puis finalement, à force de le faire revenir sur des choses, il accepte et il produit quelque chose et il aura 18 et il en était tout content parce que je crois qu'il est allé beaucoup plus loin dans la pensée de sa rédaction. Voilà, c'était un exemple.
Oui, donc je crois que c'est très bien ce que tu as dit. Si on peut les réanimer à l'école en leur proposant d'avoir une pensée plus créative, par exemple, au lieu de leur faire apprendre en SVT toutes les catégories d'insectes du monde, si on commence le cours en leur disant qui peut me dire qu'est-ce qui se passerait dans le monde s'il n'y avait plus d'insectes ? Et là, on lance le cours. Et là, à ce moment-là, on le réveille, on le réanime, il fait marcher sa pensée analogique, et ensuite, on peut lui faire apprendre le contenu. Donc, arborescence, fulgurance, bon, on sait qu'ils sont fulgurants parce que ça va tellement vite dans leur cerveau qu'ils répondent immédiatement. Prédominance, vous savez qu'il y a deux hémisphères dans le cerveau et que ce n'est pas aussi simple qu'on l'imaginait. Il n'y a pas les précoces qui utilisent l'hémisphère droit. Vous savez que c'est un hémisphère qui donne une image mentale, non-verbale, qui procède par analogie, qui voit les choses de façon globale, simultanée, qui fait appel à la pensée divergente, créative, intuitive, qui s'oppose à l'hémisphère gauche. Mais on verra que tous les précoces n'utilisent pas l'hémisphère droit et que l'idéal, ce serait même de les aider à passer de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit, l'un et l'autre, parce qu'on a besoin de ces deux types de raisonnement. Mais on sait bien que chaque hémisphère n'utilise pas les mêmes stratégies pour apprendre. Et si on n'est que sur un hémisphère, on est en difficulté dans certains domaines. Si on n'est que sur l'autre, on est aussi en difficulté. Donc, prédominance hémisphérique, hypervigilance, alors ça c'est un truc, tous les précoces sont comme ça, tous les précoces sont hypervigilants, avec cette espèce d'hypervigilance anxieuse de ces gamins qui essayent de scruter dans le visage de leurs parents, dans le visage de leurs enseignants, de leurs copains, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont même pas besoin de se poser la question, ça leur rentre tout de suite, mais ils sont toujours dans l'inquiétude de ce qui va se passer. Tu avais un exemple aussi.
Oui, là, c'est, je sous-traite avec mon fils pour qu'il me trouve des hauts potentiels dans la littérature BD. Et donc, dans les mangas, il y a Shikamaru qui a l'air d'être un bon haut potentiel. Donc, Shikamaru a une telle souplesse d'esprit qu'il peut prévoir 10 coups à l'avance en un instant et les sous-peser 200 fois. Donc, voilà, les hauts potentiels sont rentrés dans les mangas.
Ah, il y en a de partout, hein, et dans chaque... Dans la littérature, il y en a beaucoup, hein. Tous les bouquins des dernières années, les bouquins cultes comme Noé et moi, je ne sais pas si vous avez lu Noé et moi, Delphine de Vigan, hein, la petite loup, elle est au potentiel, ou dans comment s'appelle, La Consolante aussi. Enfin, systématiquement, il y a des hauts potentiels maintenant. Ils ont la synesthésie. La synesthésie, c'est un terme qu'on connaît bien, qui est une façon d'associer les couleurs avec les odeurs, avec des souvenirs auditifs. Et ça, c'est typique. Et je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour l'émission où on montrait cet autiste qui est arrivé à trouver pi avec je ne sais pas combien de milliers de chiffres. Et il disait que pour lui, simplement, les chiffres, soit des personnages, soit des choses, etc. Et je ne suis pas certain qu'il soit vraiment aussi autiste que ça, qu'il ne soit pas au potentiel. En tout cas, cette capacité à faire des liens entre différentes modalités sensorielles, on leur dit qui était Christophe Colomb. Ils sentent les odeurs en Amérique quand ils y étaient, ils entendent une musique et immédiatement ça leur apporte la réponse. C'est un explorateur qui a découvert l'Amérique. Ils utilisent beaucoup l'olfaction, les précoces. Hein. C'est moyen pour le théorème de Thalès, hein, l'olfaction. Ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Mais ils s'en servent beaucoup parce qu'ils font des liens affectifs. Hein. C'est la Madeleine de Proust. Hein. D'accord. Ekphnésie. Alors ça, c'est un truc que j'étais un des premiers à décrire. D'ailleurs, je l'ai changé dans la nouvelle version du bouquin. Mais on a tous des sensations de déjà-vu, déjà-entendu. Tout le monde l'a au moins une fois dans sa vie. Les précoces en sont débordés. Et tant qu'on ne leur a pas dit, il n'y a pas des moments où tu as l'impression que tu arrives dans un endroit et que tu l'as déjà vu ou tu as déjà entendu cette scène. Et ils disent, mais oui, comment vous le savez? Ça me le fait tout le temps. Parce que cette pensée en arborescence fait qu'ils stimulent en même temps des régions perceptives de ce que je vois et les régions dédié à la mémoire. Et donc, ils mélangent quelque chose qu'ils sont en train de voir et de découvrir, hein, deux régions corticales différentes, et quelque chose de l'ordre de la mémoire. Et c'est une impression très agréable pour eux. Et quand on leur dit que c'est normal, eh bien, ça les rassure. Détestent l'injustice, hein, évitons les punitions collectives, évitons de se tromper avec eux parce que ça les rend dingues. Hein, ça, c'était la même image que celle que tu as mise pour la fin, mais j'ai réactualisé. Hein, l'égalité à l'école, ce n'est pas la justice. Vous voyez que là, si on leur met exactement la même aide à ces trois gamins, il y en a un qui ne voit pas les choses. Le grand, il a besoin d'être plus bas et le petit, il a besoin d'être plus haut. Donc, il suffit de répartir différemment les aménagements qu'on donne aux uns et aux autres. Et à ce moment-là, ils ont tous accès au spectacle de la même façon, à égalité.
Et la réflexion, elle est arrivée par le handicap. Et je crois que, justement, c'est intéressant de se dire qu'on peut compenser aussi pour les hauts potentiels.
L'intuition, ils sont intuitifs, hein, ils ont une pensée intuitive, on vous en parlera cet après-midi. Et malheureusement, cette pensée intuitive, elle va à l'encontre de la pensée déductive. Et quand on leur demande en sixième ou en cinquième « comment tu as fait pour trouver ça ?», eh bien, on ne leur a jamais appris, parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de le faire. Parce que leur avance intellectuelle et leur fulgurance leur a permis de résoudre les problèmes uniquement de façon intuitive. L'hypersensibilité, elle est constante. Mao m'a rajouté ça, elle avait 16 ans. Je ne sais pas si c'est lié, mais la sensibilité un peu exacerbée, le fait d'être souvent en décalage avec les autres, de tout compliquer, de ne pas comprendre beaucoup de choses, de réfléchir trop à mon goût, d'avoir un immense besoin de combler tous les vides. Et la gamine, à 16 ans, ayant peur que je n'ai pas compris, elle m'ouvre les parenthèses, elle m'ouvre les guillemets, elle me dit, je vais lui mettre une illustration, parce que je ne sais pas s'il a bien saisi. Parler, je n'aime pas trop ça, j'ai toujours l'impression que les mots m'échappent, qu'ils se dérobent, s'éparpillent. Ce n'est pas une question de vocabulaire ni de définition, parce que des mots, j'en connais pas mal. Mais au moment de les dire, ils se troublent, se dispersent, et j'évite les récits et les discours. C'est énorme. Hein, et je lui dis, waouh, c'est super, c'est de qui, Mao? Elle me dit, la première, c'est Lolita Pile, et la deuxième, c'est Noé et moi, Delphine de Vigan. Donc elles me font ma culture. Enfin, je regardais tout à l'heure sur machin circassien, je ne savais pas ce que c'était.
Ah, c'est du cirque.
C'est du cirque?
Oui, les circassiens, c'est les professionnels du cirque. Donc, je comprends pas. Professionnels du cirque.
Okay. Ça me rassure. T'as un petit truc.
Alors, l'hypersensibilité, donc fragilité des sentinelles. Jeanne a 8 ans. Aujourd'hui, en CM, elle s'adapte tant bien que mal au système et prend beaucoup sur elle pour se fondre dans le moule qu'on lui propose. Hein, on retrouve le mot moule. Le problème aujourd'hui, c'est avant tout son hypersensibilité. Donc, c'est la maman qui parle. Depuis 3 semaines, la classe travaille sur la Première Guerre mondiale et apprendre tout ce qui s'est passé, le quotidien des soldats, etc., la plonge dans un réel désespoir. Quand on lit un texte, elle a des crises de larmes, elle hurle de désespoir, elle en perd la tête. Le sommeil est difficile à venir. Oui, qu'apprendre la leçon d'histoire, c'est parfois pas si simple.
Et oui, c'est que ça mobilise plein d'autres choses qui ne sont pas mobilisées chez les enfants standards.
Alors, toujours dans cette idée d'hypersensibilité, je parlais des pratiques artistiques, alors on ne peut pas les faire à tous les cours, mais l'expression par le corps et la voix, c'est une façon d'amoindrir l'écart entre le développement moteur et les aptitudes intellectuelles. Et je crois que c'est une bonne façon parfois de les ancrer dans autre chose que leur... leur pensée en arborescence. Et puis tout à l'heure, on parlait du raisonnement déductif. Alors, quand on est enseignant, on se dit, bah oui, mais il va bien falloir quand même qu'on valide les compétences du socle commun, quoi. Et les amener, je pense que c'est important aussi de les accompagner à comprendre ce qu'on attend d'eux quand on dit pensée déductive, parce qu'ils n'ont jamais appris. Donc, c'est important de les accompagner là-dessus. Alors, Flora. Flora a stimulé la créativité, accueillir l'hypersensibilité. On avait fait ce projet donc, artistique sur défier la gravité et à la fin, on leur a demandé ce que leur avait apporté à tous ces élèves de seconde, l'année de seconde. Donc Flora arrive en cours d'année. Il était une fois une fleur qui avait cependant des allures de mauvaise herbe, ce qui lui valut dans le champ où elle s'installa des pluies, des avalanches, des tornades, de moqueries. Sous le poids des remarques, Petite Fleur tenta de se créer une nouvelle image. Pour ce faire, elle prit ses fidèles pétales et les arracha une à une. Son idée était miraculeuse, elle arriva à s'intégrer un minimum tout en se transformant. Malheureusement, l'idée ne fonctionna pas bien longtemps. Elle fut embarquée par des démons qui passaient par là et l'entraînèrent dans de nombreux périples, des tempêtes qui la firent s'envoler. Par chance, elle rencontra une fois ou deux un ange, parfois une étoile. Elle atterrit finalement sur la jolie prairie d'Elivignal. Alors, c'est le collège-lycée dans lequel je travaille qui accueille des jeunes en situation de handicap. Et là, Flora a été déscolarisée. Elle y fit des rencontres fabuleuses. Son statut de lycéenne, comme il disait, la rendit fière et lui donna la volonté du travail. Les profs organisèrent autant de choses que possible afin que tous puissent s'affirmer tels qu'ils étaient. Du chemin reste à faire pour Petite Fleur et malgré un début de saison difficile, la suite se déroulera sans problème. Elle espère que votre année à venir vous apportera autant qu'à elle, mais surtout n'oubliez pas d'évoluer tout en gardant votre naïveté. Je crois que c'est un témoignage assez touchant de Flora, donc, qui est repartie dans le circuit ordinaire, non pas sans difficulté, mais je crois qu'elle a dû réussir le bac maintenant. Je trouvais que c'était intéressant cette approche. Et il y a parfois besoin de souffler, d'accompagner et d'accueillir cette hypersensibilité.
Alors cette hypersensibilité, bien illustrée par ce blog que j'aime bien, Les Tribulations du Petit Zèbre, et ils nous disent tout ça, ce qui érafle les autres me déchire. Et il faut absolument qu'on leur apprenne à se forger une carapace. Hein. Bon, c'est intéressant l'histoire de Flora là. Hein. Donc la nouvelle série culte des enfants précoces, je vous l'annonce, c'est La Petite Maison dans la Prairie d'Elivignal. J'aime bien aussi ce mot de Garcia Marquez. Hein. Il y a la mémoire, mais la mémoire, elle est altérée. Elle est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que là où les autres utilisent que la mémoire, hein, qui est facile pour ceux qui ont de la mémoire, c'est de se souvenir pour apprendre une leçon. Et oublier, c'est difficile pour ceux qui ont du cœur. C'est-à-dire que ce que la mémoire a déclenché comme souvenir affectif, comme lien, eh bien évidemment, on n'est plus dans la scolarité. On a un test que j'aime bien, qui est le test d'expression verbale, c'est-à-dire qu'on leur met des débuts de phrases et puis on leur demande de la terminer. Donc on voit déjà comment ils écrivent. Et puis, on voit l'écriture, l'orthographe, et puis surtout, c'est un test de personnalité, un test projectif. Hein. Il se sentit agacé quand il a su que les vacances... Donc lui, on ne savait pas qu'il était dysorthographique, hein, mais quand vous écrivez vacances comme ça, c'est grave. Hein. Quand on complexifie un mot, c'est que ce n'est pas bien. Mais vous avez vu comme c'est d'une richesse absolue, ça. Hein. Il souffre le plus à la récréation. C'est le moment où il se fait tabasser, embêté par les autres. Le fait qu'il avait échoué le fait redoubler, on pense de lui qu'il est très intelligent. Il aurait pu continuer, mais lui, il est persuadé qu'il ne l'est pas. Ce test-là d'expression verbale, il est super intéressant. Gaëtan ?
Alors, Gaëtan, il est en première littéraire, multidis. Là, c'était pour voir un haut potentiel associé à d'autres troubles. Il se retrouve en grande difficulté pour construire un devoir, organiser sa pensée et travailler seul. Il a eu de nombreux bilans et suivis depuis la maternelle en ergothérapie, orthophonie, orthopsie, pédopsychiatrie. Il a un profil littéraire, passionné de poésie, mais n'a pas l'habitude de travailler. Donc, je crois que l'idée, c'est de les accompagner aussi à apprendre à travailler, puisqu'ils ne savent pas toujours.
Enfin, bon, c'est des gamins, dernier conseil de cette série-là, c'est, ils sont dans le contrôle de tout. Hein, voilà ce que je leur montre cette image-là, et là, je les vois sourire tous hein, à partir de 10 ans. Il y a ce que j'ai dans la tête et ce que je dis. Et c'est là que je leur explique qu'ils sont dans leur tête comme leur Game Boy, comme leur DS ou leur console qui leur dit « on ne peut plus rien sauvegarder, il n'y a plus de mémoire ». Il n'y a plus d'espace disponible. Et tu ne peux plus rien apprendre parce qu'il n'y a plus d'espace disponible, parce que tu te poses trop de questions sur le sens de la vie, sur la vie après la vie, sur toutes ces choses. Mais alors, qu'est-ce que je fais, docteur ? Eh bien, il te suffit d'évacuer ça. Hein. Et il faut absolument que tu lâches prise et que tu arrives à vider, à récupérer de la mémoire vive. Et ça, c'est la psychothérapie qui va te le permettre. Tu ne portes pas toutes les misères du monde. De toute façon, tu ne peux pas protéger tout le monde. J'ai oublié un point important, c'est Marie qui me dit ça. Nous ne voyons pas le monde comme les autres, tout est amplifié, exalté. N'oublions pas ça, le moindre petit problème chez l'enfant à haut potentiel, il s'effondre, le moindre petite joie, et il est exalté. Il y a quand même beaucoup de confrères psychiatres qui les prennent pour des bipolaires hein, et qui ne se rendent pas compte que ces gamins, ils voient les mêmes choses que les autres, mais comme à travers un microscope. Donc à travers un microscope, vous voyez des choses que les autres ne voient pas, ou comme à travers un télescope, c'est-à-dire que vous voyez en plus gros. L'exemple typique pour moi, la plus belle métaphore, c'est Sixième Sens, le film avec Bruce Willis, où il dit à Bruce Willis, mais je vois des choses que d'autres ne voient pas, et je suis vraiment le seul à les voir, et ces choses finissent par arriver. Hein, je pense que quand ils ont fait ce film-là, c'était vraiment pour ça. On va aller assez vite sur le réenchantement. Alice a été rentrée dans mon service pour une phobie sociale. Elle est restée quand même très longtemps, très, très précoce, très, très précoce. Et quand elle est sortie, elle a fait ce dessin-là. C'est, voilà, le service m'a réanimé. Hein. Vous savez que dans le service, ils se retrouvent entre eux. Donc, ils ont des gamins qui fonctionnent comme eux. Ils ont des enseignants qui les connaissent, qui les comprennent. Et le dessin qu'elle m'a laissé en héritage, c'est ça. Maintenant, vous pouvez me laisser partir. Je peux voler, hein, je peux partir.
Livre ou film que l'on peut conseiller à des élèves à haut potentiel.
Je voulais vous montrer des conseils de lecture qu'on peut leur donner, ou de films, parce qu'ils ne veulent pas aller au cinéma, parce qu'ils ne comprennent pas, ils trouvent que ça les gonfle. Il y a quand même, outre Harry Potter, qui est quand même typiquement une métaphore des enfants à haut potentiel et qui commence à aller bien quand il est dans la vraie vie, il y a quand même 2-3 films qui sont intéressants, 2-3 bouquins que je leur conseille, c'est ça. Il y a un film pour moi qui est une magnifique métaphore, c'est Divergente. Vous connaissez Divergente ? Divergente, c'est vraiment la plus belle métaphore de ce que vivent les enfants au potentiel. C'est dans un monde post-apocalyptique. Pour sauver ce qui reste du monde, on a réparti les gens en factions. Et en factions, il y a tous les troubles psychopathologiques. Il y a les audacieux, c'est les hyperactifs. Il y a les érudits, c'est les intellos, etc. Il y a les fraternels, il y a les altruistes. Et puis, on leur fait des tests ADN pour savoir dans quelle faction on les met. Et puis, il y en a quelques-uns, une en l'occurrence, Triste, l'actrice, qui, elle, émargent dans toutes les factions. Donc, ils sont sans faction fixe, comme les enfants à haut potentiel se retrouvent sans amis fixes. Et c'est très compliqué, ils sont pourchassés. Donc, il y a Divergente. Percy Jackson, hein, c'est les plus jeunes, ils adorent ces bouquins. Faites-leur lire, c'est des demi-dieux, Percy Jackson. Et il est aussi dans cette... Et puis, alors, si vous n'avez pas vu Interstellar, allez voir Interstellar. La fille de l'acteur principal, Murphy, c'est une précoce, et c'est elle finalement qui amène la solution au problème de son père, et c'est tout à fait remarquable. D'ailleurs, elle dit à son père à un moment donné, c'est normal qu'il ne nous arrive que des âneries, que des drames, il ne fallait pas m'appeler Murphy, hein, parce que vous connaissez la loi de Murphy, qui est la loi qui fait que les choses se répètent, et il y a des séries de catastrophes. Et en fait, Et en fait, son père lui dit à ce moment-là, mais non, mais c'est pas ça la loi de Murphy. C'est pas qu'il n'y arrive que des catastrophes. La loi de Murphy, c'est ce qui doit arriver, va arriver. Et je trouve ça très bon.
Conclusion.
Finalement, tout ce qu'on vient de voir, ça peut vous paraître tout à fait classique, banal, mais c'est tellement important parce que c'est tellement amplifié chez les enfants à haut potentiel. Et tout ce qu'on vient de voir permet de mieux comprendre comment les autres enfants, tous les enfants, fonctionnent au niveau cognitif. Puisque c'est exagéré chez les précoces, l'effet loupe de la précocité donne un regard sur le fonctionnement cognitif de tous les enfants. Il y a un papa d'un petit Suisse qui m'a envoyé cette photo récemment pour me dire « Mon gamin qui refuse tout, il a trouvé en Suisse un autre mentor et qui lui a appris à faire du ski, et à faire de la descente. » Et regardez, il lui apprend à avoir la bonne posture. Hein, et ce mec a un charisme pas possible. Et il lui explique comment il faut se positionner pour ne pas prendre de risques, pour descendre, pour attraper les autres. Ça, c'est ta conclusion.
Voilà, la bonne posture. Pour une juste sélection, tout le monde doit passer le même examen. Vous allez devoir grimper à cet arbre. Voilà. Donc, effectivement, je crois que c'est important de bien garder cela en tête. Parce que... Du côté éducation nationale, ben on a fait beaucoup de chemin. Hein. Je ne suis pas du tout inquiète. Je trouve qu'il y a plein de prises de conscience. Il y a une collaboration grande. Enfin, je le vois dans le service dans lequel je suis, puisque j'appelle souvent des collèges, des lycées. Et de plus en plus, on travaille ensemble. Et ça, c'est d'une grande richesse. Et je crois que l'idée, c'est justement adapter sa pédagogie. C'est passer du prêt-à-porter à la haute couture. J'aime bien cette métaphore de Vincent Desportes, parce que je crois que voilà, tous enseignants ou personnels travaillant dans un établissement scolaire, on a notre part de responsabilité dans cette créativité-là. Et il faut la retrouver, quel que soit le système dans lequel on est, qui est parfois un peu moulant, modelant, et qu'on peut proposer d'autres façons de faire. Il s'agit bien sûr d'enseigner des méthodes, de structurer la pensée, le langage, même s'ils ont une façon différente de fonctionner, optimiser leur socialisation, je crois que c'est important aussi, reconnaître et respecter leurs différences, lutter contre l'ennui en classe, la faciliter, nourrir leur intellect, exploiter leurs ressources. Je crois que c'est important d'avoir ces pétales de marguerite en tête quand on bâtit un cours, une activité avec eux. Et puis, je crois que, comme le disait Olivier, il suffit de leur demander parfois comment fonctionner avec eux et ils nous donnent un certain nombre de réponses. Voilà, des regards croisés, ça me paraît essentiel autour de l'adolescent. Je travaille plutôt donc en collège et en lycée, mais regards croisés parce qu'il s'agit bien de travailler ensemble. On l'a vu encore récemment sur une situation où une équipe d'établissement scolaire s'est déplacée sur le service hospitalier, puis on peut faire l'inverse aussi, ça arrive, autour d'une situation où on a besoin de redonner du mouvement. Chacun dans sa mission, on ne se marche pas sur les pieds, mais on travaille ensemble et on est cohérent. Et autour de jeunes qui sont au potentiel avec des troubles associés, c'est très, très important pour qu'on soit crédible et puis qu'on fasse avancer le jeune. Voilà, pour que le jeune reprenne confiance en lui, organise ses pensées, ses actions, fasse place aux autres dans son espace de pensée aussi, c'est important, continue à se construire, à développer son intelligence, se constitue des outils dans un cadre bienveillant, la fermeté bienveillante, je crois que c'est important, guidant, vigilant, contenant, épanouissant. Et je crois que ça, c'est important, la fermeté bienveillante. Parfois, la précocité nous empêche de voir l'attitude qu'on doit avoir avec un jeune, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'école. Voilà, il questionne effectivement par sa précocité, mais le cadre éducatif est nécessaire. Et que c'est aussi notre responsabilité d'être très cohérent par rapport à ça, parce qu'il y a des jeunes qui peuvent se retrouver après dans des conduites en grandissant, dans des conduites oppositionnelles et de la délinquance aussi.
Voilà, donc pour conclure, eh bien que finalement, vous voyez qu'on parle tous des mêmes enfants, qu'on est un peu à la limite entre le risque de handicap. C'est pas un handicap, bien sûr, mais on va aider tous les enfants différents. Je laisse le mot de la fin à Mandela qui dit « En faisant scintiller notre lumière, on offre aux autres la possibilité d'en faire autant ». Voilà, on vous remercie de votre attention.
Conférence organisée par la DAFOP Académie de Lyon. Enregistré le 7 avril 2016. Enregistrement, mixage et mise en ligne, Canopée Site de Lyon.